Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Dobar den.
Goedemiddag.
Hola.
Et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Europe est une fête. Aujourd'hui, nous sommes quatre autour de la table, Rosita, Ale, Ruben et moi, et nous représentons respectivement la Bulgarie, l'Espagne et les Pays-Bas et la France, bien sûr. Comment ça va, vous ?
Ça va très bien.
Ça va ? Pas trop mouillé par cette pluie ? Vous n'êtes pas en sucre, ça va ?
Ça va.
Vous avez supporté ? Alors, au début de la dernière émission, chacun de nous a dit les sports qu'il pratiquait. Mais on est tous d'accord, en ce moment, il fait trop froid pour faire du sport. En plus, il pleut. Donc, on s'occupe chez nous, chacun chez soi. Vous vous occupez comment, vous, en ce moment, quand vous êtes chez vous ?
Moi, normalement, j'ai lu, mais en fait, comme j'ai eu un petit problème d'évier hier soir, j'ai fait un peu des plomberies.
D'accord,
pas très donc, sexy pour un vendredi, mais bon.
Allez, la plombière. Ruben, qu'est-ce que...
Oui, bon, la semaine dernière, j'ai déjà raconté que je joue aussi aux échecs. Bon, ça, oui. C'est parfait pour faire à l'intérieur. Sauf, à côté, je lis beaucoup de BD, et notamment le nouveau Blake et Mortimer, qui est pour
D'accord.
moi le meilleur BD
référence.
Tout le temps. Ouais. Mais bon.
Et toi, Rosita, alors ?
Et moi, je regarde des films.
Tu regardes des films ?
Petit cocooning.
Tu me disais que tu étais allé au Salon du Vin avant de venir.
Tout à fait.
Ça va, tu regardes tes
lucidités. Ça va très bien, ça va.
Alors, le thème aujourd'hui de l'Europe est une fête et parlons du futur. Et là, j'ai une information de la plus haute importance. Personne autour de cette table n'est capable de prédire le futur. Et je crois même que personne dans le monde n'est capable de prédire le futur. Ça, c'est de l'info. Et puis, de toute façon, le futur, c'est déjà le présent. J'ai plein d'exemples. Ce sera le cas au cours de la COP24 à Katowice, en Pologne, qui démarre le 3 décembre. Et lorsqu'on va parler du changement climatique pendant cette conférence, et vous voyez bien qu'il n'y a plus de saison déjà aujourd'hui. Donc on est déjà dans un moment où le futur, c'est déjà le présent. Ce sera le cas aussi au sommet international sur l'édition du génome humain à Hong Kong, lorsqu'on va présenter les expérimentations sur les bébés éprouvettes. Et ouais, on est donc capable de modifier génétiquement les fœtus. On peut leur donner les yeux violets ou magenta, ou on peut même leur donner trois jambes. Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire résister au changement climatique ? Ce serait pas mal, ça. Et enfin, le futur, c'est déjà le présent sur Mars, avec ce robot envoyé sur la planète rouge pour l'explorer. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu à la télé. Moi, j'ai vu un colon envahir une planète, sauf que cette fois-ci, le colon ne s'appelle pas Christophe, n'est pas européen et n'est pas un humain. On a donc été remplacé par le robot. Quand je vous dis que le futur est déjà présent, bref, tout ça c'est moitié sérieux, moitié rigolo. On va revenir avec quelque chose de plus terre à terre avec Rosita qui va nous exposer l'appréhension des Bulgares face à leur futur.
Futur, en général, c'est un mot qui est plein d'espoir et de promesses, mais en Bulgarie, pour ceux qui y restent, le futur est synonyme de survie. En ce moment, en Bulgarie, nous n'avons pas des gilets jaunes dans la rue, mais des citoyens mécontents qui protestent en brandissant le drapeau bulgare pour changer le pays du futur. Le futur du pays, pardon.
Oui, c'est mieux.
Tout à fait. Les protestes bloquent les rues de grandes villes ainsi que les entrées frontalières. Oui.
Vous parlez de protestes, je crois que c'est un mot qui n'existe pas, Rosita.
Ah bon ?
Non, on dit manif, on parle de manifestation.
Oui, en sachant que pour les Bulgares, manifestation, c'est quelque chose plus joyeux, plus premier.
Ah, c'est la fête,
mais
quoi.
Voilà, un peu en fait.
Et donc dans proteste, on entend plus un mot de.
C'est quelque chose de plus fort.
D'accord, quelque chose de virulent, quoi.
Tout à fait, on met beaucoup plus de mécontentement dans un mot.
Écoute, inventons un mot et parlons de proteste alors en Bulgarie.
Voilà.
Et pourtant, nous, on n'a jamais entendu parler de ces protestes bulgares.
C'est normal, parce que hors des frontières, bien sûr, personne ne parle n'en parle, vu que la Bulgarie, c'est un tout petit pays perdu dans la géographie européenne. Et la révolte d'un pays, d'un peuple de 7 millions est moins impressionnante que, bien sûr, de celle-là des Français, qui est 67 millions.
C'est sûr. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des protestes ? Alors, on va dire protestes, hein, comme cela en Bulgarie ?
Malheureusement, ou plutôt heureusement, non. Ah. Ce n'est pas la première fois. En fin janvier 2013, commencent les protestes massives dans le pays contre l'augmentation des prix de l'électricité, en général contre le système politique et les dirigeants depuis la chute du communisme. À l'époque, le Premier ministre, c'est Boyko Borisov. Au bout d'un mois de protestes, il démissionne de son poste. Le tournant de ce mouvement a eu lieu le 20 février 2013, quand le photographe Plamen Goranov s'est immolé par le feu pour exprimer son mécontentement contre la corruption dans sa ville natale de Varna. Il est décédé, malheureusement, le 3 mars, suite à ses blessures. Et on le compare à Jan Palach, l'étudiant tchécoslovaque, qui est mort de la même façon en 1969.
Et comme ils ne sont pas morts pour rien, la situation s'améliore après la démission du gouvernement.
Mais pas du tout. Ah. En mai 2013, il y a des élections législatives et c'est le parti de Borisov qui gagne. En novembre 2014, il est de nouveau nommé Premier ministre. Alors, ses protestes et ses sacrifices étaient inutiles.
Alors pourquoi le réélire si le peuple qui le force à démissionner, je ne comprends pas là, ils réélisent quelqu'un qu'ils ont sorti dehors.
Alors là, c'est la question que tout le monde se posait à l'époque, mais tout s'explique en sachant que la majorité des électeurs en Bulgarie sont des employés d'administration qui sont bien privilégiés par la politique de Borisov et bien sûr les Roms que tout le monde sait, si on leur paye, ils font tout ce qu'on leur demande.
Et c'est de la corruption de voix, en fait, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et pendant les meetings de Gerb, c'est le parti de
Gerb.
Gerb s'appelle le parti de Borisov.
Gerb, ok.
Voilà. On leur donne de l'argent et de la nourriture pour s'assurer de leur vote. Et nous revoilà de nouveau dans les mêmes draps, pour ne pas dire autre chose.
Et là, on attend la suite de ce conte de fées politique, de cette coalition de Gerb que tu racontes à merveille.
Voilà. La suite, ce sont les présidentielles de 2016. Borisov avait promis de démissionner si la candidate du parti, de son parti, ne remporte pas les élections. Alors, en novembre 2016, c'est le candidat socialiste, le général Roman Radev, qui est élu. Et forcément, Borisov démissionne.
Enfin, on est sauvé, ça y est, il se barre.
Pas du tout, pas du tout. Six mois plus tard, le 4 mai 2017, le Parlement vote pour un nouveau gouvernement avec un Premier ministre, je vous fais deviner, Borisov.
Champion.
Voilà, troisième fois.
Le retour du retour du retour du champion. Voilà.
On dit qu'un peuple mérite bien son destin, mais je ne pense pas qu'aucun peuple mérite une telle moquerie. Alors depuis déjà un mois, des protestes dans les rues de la Bulgarie se multiplient pour changer ce cycle infernal, pour pouvoir espérer d'un futur meilleur ou d'un futur tout court. Et entre-temps, les politiciens se sont appropriés l'expression de Madame Pompadour. Après nous, le déluge.
Oui, d'accord. Alors en fait, c'est assez drôle de voir ce Borisov revenir et repartir.
Voilà, j'espère que troisième, dernière fois.
C'est pas drôle pour tout le monde, visiblement.
Non, que pour lui.
Ça fait un mois qu'il proteste comme c'est un
qui se manifeste. Ça fait un mois, oui. Ça fait un mois.
Eh bien... Et donc, tu as une musique à nous faire écouter pour animer tout ça.
Oui, un peu plus de...
Ça va être une musique, un chant...
Joyeuse,
plus joyeuse, d'accord.
Plus joyeuse. Et c'est un groupe qui s'appelle Obraten Effect, qui veut dire effet inversé. Alors, on espère qu'avec ces protestes, on va inverser le futur pour qu'on soit mieux. Et la chanson s'appelle Zamarcheto.
Zamarcheto, on écoute ça tout de suite.
Мама! piace. Ti mezzo si capo mucace.
Quelle musique! Oui, c'est vrai que ça donne un peu le sourire, hein. Plutôt, plutôt joyeux. Alors, pendant cette pause musicale, on a le droit à des petits gâteaux. Qu'est-ce que c'est ces confiseries que tu nous as données, Ruben?
Oui, ce sont des kruidnoten ou pepernoten, un peu comme le pain d'épices. Bon, en tout cas, ouais, vous ça, m'avez bien ça. Confirmé que ça sent un peu comme ça,
avec mon chocolat.
Chocolat autour, mais on va en parler tout à l'heure.
C'est très bon.
C'est très bon, ouais.
Et alors, pour les, on va revenir aux manifestations, aux protestes. Et je voulais, enfin, on va dire le mot proteste. Je voulais savoir si en Espagne, aux Pays-Bas, vous aviez des mouvements similaires à ce qui s'est passé en Bulgarie et ce qu'on peut aussi assimiler à ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes en France.
Alors, bah, en Espagne, nous, on a eu les Sandinistas. C'était en 2015, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très sûre.
Oui, je crois que c'est ça, oui.
Et du coup, bah, on a eu pendant longtemps...
Les Indignados,
bien
sûr.
Los Indignados, c'est ça, qui ont manifesté pendant super longtemps dans la, plaza, dans la Puerta del Sol. Et après, je ne sais pas quelles conséquences ça a eu, en plus de la création des nouveaux partis qui n'existaient pas en Espagne avant. On avait comme en France des partis un peu classiques. Et du coup, dû à ça, on a eu Podemos qui
oui,
est né.
Qu'on a entendu beaucoup parler parce qu'ils ont eu du mal à constituer un gouvernement à la suite, en fait, finalement, du mouvement des indignés. Ils ont eu des mouvements comme Podemos qui se sont créés. Ils ont eu du mal à constituer une majorité. Si j'ai bien compris la situation espagnole.
Oui, c'est un peu plus compliqué que
oui,
ça.
Je crois que c'est ça.
Mais
ouais,
ça marche bien dans les mairies, en fait. Ça marche moins bien au niveau national.
Très ouais, bien. Et la Catalogne, cette affaire de... Il y a eu des gros mouvements aussi. Ça, alors c'est à vous. Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais je ne vais pas parler de ça, moi. Non, oui, la Catalogne, c'est pour l'indépendance.
C'est l'indépendance.
C'est mais... ça. Mais bon, c'est un sujet qui traîne depuis des années. Et moi, en fait, j'ai un peu du mal à...
À t'intéresser à ce sujet parce que c'est répétitif.
Ouais, j'en ai marre, en fait.
D'accord. Donc, c'est une Galicienne qui parle aujourd'hui. Et donc, Ruben, aux Pays-Bas...
Oui, on n'a pas trop la tradition vraiment de manifester ou protester. Sauf qu'aujourd'hui, on a vu des gilets jaunes aux Pays-Bas.
C'est vrai?
Incroyable, ouais.
Comment on dit gilet jaune en néerlandais?
Gele hesjes.
Et on utilise cette expression aussi?
On dit gele hesjes, oui.
C'est
on
ne
dit pas
ça.
Gilet jaune. Mais c'est plutôt, ce sont des gens qui se disent solidaires avec les Français et surtout contre le pouvoir, contre le fait, contre monter les prix des essences. Mais c'est beaucoup plus grand, c'est vraiment... ouais. En plus, on ne peut pas vraiment dire d'où vient ce groupe aux Pays-Bas, comme en France. On ne peut pas dire...
Non, c'est ça.
C'est de gauche, c'est de droite, c'est un peu de tout. Ce sont juste des gens qui ne sont pas contents pour plein de raisons et voilà.
D'accord. Et donc, ça, on peut parler d'un mouvement de manifestation qui s'européanise, peut-être.
Oui, hier en Belgique aussi déjà. Hein,
les rues, ouais,
de,
vrai.
Les rues de Bruxelles étaient bloquées. C'était apparemment, c'était un grand... oui, c'était pas très bien. Mais oui, on verra.
D'accord, très bien. On va enchaîner avec toi, Ruben, puisqu'on va partir aux Pays-Bas et tu vas nous parler un petit peu de ta façon de voir le futur.
Sinterklaasje, 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 Sinterklaas. Hey, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt.
Oui, oui, oui. Encore 4 nuits avant le grand jour pour les enfants néerlandais. Car le 5 décembre, on fête Sinterklaas, qu'on vient d'entendre, ou Saint-Nicolas chez nous.
D'où cette fameuse musique qui nous rappelle vraiment le futur. Donc la Saint-Nicolas, donc on le rappelle, c'est une fête pendant laquelle les enfants sages reçoivent des confiseries et des cadeaux. C'est une fête qui est aussi fêtée en France, mais en France c'est le 6 décembre je crois, c'est ça ?
Oui, 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 on fête ici en Lorraine, en Alsace surtout, mais c'est un peu différent par rapport à chez nous. Nous, on le fête, c'est un peu comme la nuit de Noël qu'on fête plutôt le 24 mm-hmm. décembre, et pour nous, c'est le 5 décembre.
C'est une veillée, quoi.
Voilà, c'est la soirée des cadeaux, et d'accord. Là, quand on a été sage, on va recevoir des cadeaux. En France, par contre, il y a Saint-Nicolas, pardon, vient avec Père Fouettard.
Oui.
Mais...
Père Fouettard qui punit les enfants passage.
Tout à fait, mais chez nous il vient avec Zwarte Piet.
Zwarte Piet.
Zwarte Piet, oui, en fait chez nous c'est une fête vraiment à part, c'est un peu différent. Le Saint-Nicolas des Pays-Bas a même servi comme inspiration pour le Père Noël, parce que c'était des émigrants néerlandais qui ont introduit Sinterklaas aux États-Unis. Et le Père Noël a été inspiré sur le personnage. Mais pour revenir chez nous, c'est quand même plus intéressant, je pense. Le Saint-Nicolas reste encore la personne qui vient avec les cadeaux et on mange des spécialités comme les krautnoten ou pepernoten qu'on vient de manger, ou des lettres en chocolat ou le spéculoos, entre autres.
D'accord, mais là, on n'est pas vraiment sur la notion de futur.
Non, tout à fait, tout à fait. Je vais y arriver.
Alors,
dis-nous. T'inquiète pas. Parce qu'en fait, depuis 10 ans...
Je m'inquiète.
Oui, c'est Zwarte Piet qui fait débat. Zwarte Piet, c'est l'assistant de Saint-Nicolas, mais Zwarte Piet veut dire pierre noire. Car Saint-Nicolas, qui vient d'Espagne notamment, avait des assistants morts à l'époque. On parle 16e, 17e siècle. Mm-hmm. Et au début, Zwarte Piet avait le même rôle que le père Fouettard. Alors, il était vraiment là contre les enfants méchants, quoi. Mais progressivement, il est devenu l'assistant drôle qui donne des bonbons, etc.
Ben voilà, ça a l'air pas mal.
Oui, sauf que pour un groupe qui devient de plus en plus grand, on considère Zwarte Piet toujours encore comme l'esclave de Sinterklaas. Et là, il y a le problème parce qu'avant, il portait du rouge à lèvres, des grandes boucles d'oreilles en or, etc. Et pour les anti-Piet, on les appelle maintenant, ce n'était pas suffisant d'enlever tous ces aspects. Il faut vraiment changer sa couleur parce que oui, c'est vraiment, ce sont des gens en général blancs qui sont maquillés en noir. On parle de blackface et ça, c'est quand même considéré comme très, très raciste.
Ah oui.
Et maintenant, il y a une grande discussion, parce qu'il y a des grands manifestations, démonstrations, protestes, comme tu veux, et même des bagarres pendant l'arrivée de Saint-Nicolas aux Pays-Bas début novembre. Alors, en fait, les pro-Piet trouvent que la culture néerlandaise est menacée, et ils ont eu du soutien d'un grand groupe d'ultra des grands clubs de foot néerlandais. Et dans ce groupe, on peut dire assez extrême droite, on a cherché la confrontation, lancé des propos racistes, et en fait... Ce qui était à la base une fête très sympa est maintenant devenu une grande discussion.
Parce qu'en fait, on interdit le blackface et donc on menace la culture en interdisant le blackface. C'est ça l'idée ?
Oui, en fait, les gens qui sont pour Zwarte Piet disent que c'est que le début. On dit qu'on veut couper tout avec la tradition.
Première marche et ensuite... Mais à la base, c'est une fête pour les enfants. C'est dommage pour eux si on ne fait plus la fête.
Tout à fait. Et là, il y a pour moi aussi... Là, on va vraiment arriver au futur, finalement. Parce qu'aux Pays-Bas, on a toujours été très fort à être innovateur, trouver des accords entre les gens. Mais maintenant, on ne s'écoute plus aux Pays-Bas. C'est un peu fini. Zwarte Piet est un peu devenu le symbole pour quelque chose de beaucoup plus grand. Un peu comme les gilets jaunes,
on peut
dire.
Oui, on en a parlé, oui.
Et c'est vraiment la ville contre la province, droite contre gauche, immigrants contre autochtones. Alors oui, ça devient beaucoup plus grand qu'un assistant.
Et donc le 5 décembre, on ne fait plus la fête aux Pays-Bas ? C'est fini ?
J'espère quand même, parce que, bon, on vient d'entendre la musique, c'est quand même une grosse fête chez nous.
Un gros tube.
Voilà, je pense que tu as compris que je ne vais pas trop me prononcer pour ou contre Piet, mais j'espère surtout qu'on arrive à trouver une solution aux Pays-Bas. C'est une fête assez unique chez nous. Et si on revient maintenant à prendre juste Noël, etc., moi je trouve... En tout cas, quand j'étais enfant, c'était tellement grand comme fête. Et c'est dommage que maintenant, on est en train d'enlever tout ça juste parce qu'il y a des gens qui sont très, très fâchés pour plein de raisons, en fait.
Oui, forcément. Oui. Et tu avais une musique à nous faire écouter pour
Oui, c'est un peu dans le même genre.
Comme la musique que tu as fait écouter au début.
Oui, en fait, ça vient d'un groupe qui s'appelle Het Goede Doel, La Bonne Cause. Ah. Et il va chanter Sinterklaas. Qui ne le connaît pas, Sinterklaas, et bien sûr, Zwarte Piet. Ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre, mais c'est quand même la chanson la plus connue pour Sinterklaas.
Et on va écouter ça tout de suite.
kwam Sinterklaas en stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat en groet gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over mijn zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rijd ik even bij ze langs omdat ze heel goed ken. Helaas, helaas is Sint nooit thuis, al soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet.
Sinterklaas!
December krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drink in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel en het jaar daarop weer niet.
Sinterklaas!
Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid zijn paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet.
Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas.
On a entendu Ruben chanter pendant cette musique et vous avez raté quelque chose, je vous assure. Rosita, tu me disais pendant cette pause que vous fêtez aussi la Saint-Nicolas.
Oui, chez vous. Nous aussi c'est le 6 décembre.
Comme en France alors.
Voilà, on mange, la tradition c'est de manger du poisson.
D'accord, juste du poisson. Il n'y a pas de petit cadeau pour les enfants?
Non,
tout ça
pas du tout, c'est le 24.
Alors écoutez, alors le 6 décembre, je mangerai un poisson pour respecter la tradition bulgare parce que ce n'est pas trop lourd à porter comme tradition. Pour revenir à tes propos, puisqu'on en parlait, on continue la conversation pendant la pause, tu disais que vraiment là où tu étais déçu, c'est que une tradition qui était sympa et qui était chaleureuse pour tout le monde et que tu percevais comme quelque chose d'agréable est en train de disparaître pour des idées progressistes qui se défendent, certes, puisque c'est des assimilation de la diversité et des choses comme ça, mais en même temps on pourrait trouver un compromis qui fait que non, on peut respecter notre tradition et dire qu'il y a certaines choses dans la tradition qui vont pas, il y a certaines qu'on peut abolir ou faire disparaître, mais en même temps respecter la tradition. Ruben.
Oui, en fait, on essaye de trouver une solution en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pierres qui ont juste des traces de noir sur le visage et qu'on dit qu'ils passent par les cheminées pour donner des cadeaux.
D'accord.
Qui est déjà peut-être pas mal, je pense, comme solution. Sauf que oui, ça a dépassé tout. On n'arrive plus à trouver un accord parce que ce sont des groupes tellement extrêmes qui ont pris la main dans la discussion.
C'est ça.
Et les gens...
C'est des petites minorités qui ont des discours très virulents qui mobilisent le...
Et avant tout, je condamne tout acte raciste. Et en fait, c'est ça ce qui m'a fait beaucoup peur récemment. Mm-hmm. J'ai vu... On a vu pendant l'entrée de Sinterklaas récemment qu'il y avait dans presque toutes les grandes villes des gens vraiment avec des propos que je pensais que ça n'existait plus en 2018. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même... Ça, en fait, ça justifie toute suppression de Zwarte Piet.
D'accord.
Oh, pardon, je vais tomber tout le paper note. Je suis trop engagé.
Oui, c'est vrai. Là, on
non, mais ça, c'est... Ça,
tu deviens tout rouge. On va,
ça, c'est horrible.
On va boire de l'eau et tout va bien se passer. allez, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet?
Non, pas trop. Nous, on ne fait pas Saint-Nicolas, même s'il venait d'Espagne.
Il vient d'Espagne, oui, tout à fait.
Je ne savais pas. Mais non, nous, on fait les trois rois mâches.
Le classique catholique, quoi.
C'est ça.
D'accord. Alors, par contre, tu vas nous exposer une petite chronique sur Parlons du futur.
Parlons du futur. Je me suis répété en voix haute « futur Espagne » et j'ai pensé tout de suite à la crise, au chômage des jeunes, à la politique. Mmh. Du coup, je me suis dit que ma chronique n'allait pas être très optimiste. Mais en fait, comment les Espagnols se positionnent par rapport au futur du pays? Sommes-nous plutôt pessimistes ou optimistes? Je me suis dit que je suis partie d'Espagne en pleine crise. Des années compliquées se sont succédées juste après.
Et alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Ça s'est amélioré? Comment on voit le futur du pays aujourd'hui?
Alors, justement, je me suis un peu renseignée sur les sujets et je suis tombée sur des articles avec des titres du genre « La croissance ne remonte pas l'optimisme des Espagnols »,« L'Espagne s'installe dans les pessimismes » ou « De moins en moins
d'optimisme ». Oui, des trucs sympas, quoi.
Oui, c'est ça. Pas très encourageant, en tout cas. En général, en fait, j'ai l'impression que les autres pays ont une vision des Espagnols comme des gens plutôt optimistes.
Oui, c'est ça, optimistes, souriants, vivants.
Oui, c'est ça. Mais après les événements des dernières années, la presse ne cesse pas de mettre l'accent sur l'augmentation du pessimisme chez les Espagnols. Et figurez-vous qu'apparemment, le pessimisme espagnol date d'il y a longtemps. Il a commencé avec la chute de l'invincible Armada en 1588.
J'arrive à dire. 1588, donc c'est historique.
C'est ça, qui a démotivé tous les pays. Et en fait, après, pendant les baroques, l'Espagne s'est vachement fermée vers l'étranger et a fait des freins pour les progrès du pays aussi.
Donc on peut considérer que le pessimisme est culturel et en Espagne ou puisque ça date comment...
Apparemment oui, parce que j'ai trouvé qu'en littérature, on a eu un mouvement qui s'appelle les fatalismes mystiques, qui culmine avec les vers de Gil de Diezma, je vais le dire d'abord en espagnol.
Allez, un petit peu d'espagnol, allez, vas-y.
De las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque se acaba mal. C'est-à-dire, de toutes les histoires de l'histoire, sans doute la plus triste est celle de l'Espagne, parce qu'elle s'est finie mal.
Et bah, tu vois, quand tu l'as dit en espagnol, j'avais l'impression que c'était un truc joyeux, et quand tu le dis en français... Quand je comprends le sens, je vois tout de suite qu'en fait, c'était plutôt
ouais,
plutôt
pas très bien, non. Et en fait, on a eu aussi le tremendismo juste après la guerre civile, donc une époque non plus très joyeuse. Et en fait, c'était un mouvement en littérature aussi qui comptait avec des trames hyper réalistes et des personnages qui étaient décrits de façon très pessimiste.
Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe alors? Quel est le ressenti général des Espagnols? Optimiste, pessimiste?
Alors, en fait, apparemment, au début de la crise, les gens, ils étaient encore un peu optimistes. Mais avec les années, tout ça a changé. Aïe. Et en fait, j'ai trouvé un sondage de 2018, donc, et de cette année, pour les journaux El País. Mmh. Et en fait, sur les sondages, j'ai trouvé que 73% des Espagnols se sentent pessimistes sur la situation générale du pays. Et seulement 23% se disent optimistes. Et j'ai trouvé rigolo qu'en fait, il n'y a pas de différence entre les jeunes et les gens plus âgés. Mais par contre, apparemment, les femmes et les électeurs des gauches sont les plus pessimistes.
Ah, c'est triste ça.
Ouais. Et du coup, en fait, les raisons, je pense qu'on les connaît tous pour ces sentiments négatifs qui s'installent en Espagne. Oui. C'est toutes les conséquences de la crise, les chômages, c'est ça, les logements.
La crise économique qui couvre le pays. Mais donc, c'est plus la fiesta en Espagne?
Et on dirait, mais bon, du coup, je me suis dit que je ne voulais pas finir la chronique.
Mais tu vas nous faire pleurer, là, allez.
Non. En fait, je voulais finir un peu avec un meilleur goût dans la bouche. Et je me suis dit qu'il y a quand même au moins trois raisons pour lesquelles l'Espagne devrait affronter les futurs avec optimisme. D'abord, j'ai appris qu'on est les premiers pays en donation d'organes. Donc,
généreux.
C'est ça, on est généreux. Deuxièmement, on a une super diète méditerranéenne.
Ah oui.
J'ai réussi à dire les mots. Et un des meilleurs systèmes sanitaires du public du monde, avec celle de la France, bien sûr. Et qui fait apparemment que selon une étude de l'Université de Washington, on sera en 2040 les pays avec la plus longue espérance de vie du monde.
L'Espagne.
Ouais.
Même si vous mangez autant de tapas, vous allez avoir l'espérance de vie la plus longue du monde.
Ouais, c'est ça. Et c'est bien les tapas. Et pour finir, en fait, et le plus important, c'est que chez nous, il fait toujours beau et on continue à faire la fête et à sortir malgré la situation économique, ce qui est déjà pas mal, je trouve.
Bah oui, c'est plus important.
C'est ça.
L'essentiel est là.
Et bon, et je pense qu'il y a plein d'autres raisons, mais je vous laisse avec les mots Esperanza et avec une chanson de El Canca qui s'appelle Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Comment tu traduis ça?
Alors, j'ai...
C'est du mal, c'est dur.
Ouais, c'est un peu compliqué, mais je dirais, je suis dans la merde et en fait, je ne me plains pas.
Bon, bah, on ne va pas se plaindre, on va écouter la musique alors.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío. Me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que veo, ay, qué tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando. Yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto. Un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo. Qué dolor que pena y qué tormento. Y cómo me duele la vida entera. Y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera. Que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere. Solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo. De remiendo tengo lleno el corazón. Chimpón.
Wow. Ça, ça donne la pêche. Merci. Allez. Les peuples sont pessimistes en Espagne. En France, on peut dire que c'est la même chose. En Bulgarie, aux Pays-Bas, ils sont pessimistes hein, ou pas? Oui, non?
Oui. Oui, oui. Alors, assez pessimistes. Ouais. Mais bon, on verra ce que le futur va nous donner. Hein.
Et en Bulgarie aussi, tu me disais que c'était plutôt pessimiste, c'est ça?
Ah, c'est plutôt pessimiste, mais je trouve qu'en été, c'est beaucoup plus.
Ah oui, ça dépend de la saison en fait.
Voilà.
On est plus optimiste pendant l'été que pendant l'hiver.
Et nous, maintenant, on est très joyeux en Bulgarie parce qu'il y a la neige.
Voilà. Il neige en Bulgarie?
Oui, on a 20 cm.
20 cm
ouais.
En ce moment?
Ouais.
Bah, ça, c'est de la chance.
Ouais.
Alors, avant de finir la mission, on va faire le jeu. Et aujourd'hui, on joue au vrai-faux. Je vous propose de jouer à celui-là. Je vais vous proposer donc des inventions qui vont révolutionner notre futur. Et vous me dites si c'est possible ou si, Casimir, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude. Est-ce que vous avez compris?
Oui.
Alors, dans le futur, on aura des bus qui passeront par-dessus les voitures pendant les embouteillages. Est-ce que c'est possible ou est-ce que... Casimir, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude.
C'est vrai,
c'est
ça.
Possible.
C'est possible, ouais. Oui, c'est possible. En fait, c'est des bus très larges qui vont rouler entre les voitures. C'est plutôt des trams que des bus et qui pourront contenir au moins 300 personnes. Donc, c'est des projets qui sont développés par des Chinois et des Turcs en parallèle. Alors, dans le futur, les lampadaires seront alimentés en électricité par des méduses. Ah, moi, alors, c'est possible ou Casimir, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude, dites-moi.
Moi, je pense que c'est possible. C'est bon.
Que c'est possible.
Oui, maintenant, ils font tout, quoi.
C'est ça, et en fait, c'est une start-up française qui propose un système d'éclairage à partir d'organismes marins bioluminescents. Donc, méduses, calamars, algues et autres planctons bioluminescents seraient des nouvelles sources d'énergie de nos trottoirs urbains.
Mais ils vont les tuer ou pas?
Alors, je ne sais pas exactement biologiquement comment ça fonctionne, cette technologie, parce que j'ai un peu du mal, ce n'est pas mon domaine, mais apparemment, on voit bien que dans les fonds marins, les méduses font de la lumière et réutilisent ces molécules pour les utiliser sur les lampadaires. C'est ce que j'ai compris. Alors, dans le futur, les excréments des chevaux et des lamas pourront être utilisés comme nourriture par les humains.
J'espère pas.
J'espère pas non plus.
Ah, ça va être vrai. Ça va être vrai.
À votre avis ?
Bah, j'espère pas.
C'est Casimir, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude. Oui. Donc, ça, ah bah, c'était n'importe quoi. Bien, vous inquiétez pas. On n'en est pas encore là. Dans le futur, on sera capable de dormir une heure par jour sans être fatigué. Ah
ah ! Ah non, moi, j'adore dormir.
Une heure,
ça serait dommage.
Une heure par jour sans être fatigué. Est-ce que c'est possible ?
Moi, je pense que
est-ce
oui,
que c'est mais... n'importe quoi ?
Ouais.
Non. Tu penses oui ?
N'importe quoi, j'ai dit.
C'est n'importe quoi, oui. Je veux inventer cette phrase en fait. Dans le futur, les fermes seront verticales. Les fermes seront verticales. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ?
C'est vrai.
C'est vrai, c'est faux, c'est possible, c'est pas possible.
Allez, c'est vrai.
C'est vrai, allez.
C'est vrai, eh bien, c'est vrai. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on estime que la population urbaine sera de 6,5 milliards en 2050. Et donc, on devra développer des fermes verticales pour alimenter les gens, puisque la densité aura fortement augmenté à ce moment-là. Dans le futur, on aura un vaccin contre le tabagisme. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je raconte n'importe quoi ? Sachant que j'ai déjà dit beaucoup de n'importe quoi. Je ne vais pas vous influencer.
Moi, je ne comprends pas les mots, en fait.
Le tabagisme. Donc, est-ce qu'on aura un vaccin contre le tabagisme ? Le tabagisme, c'est les gens addicts au tabac qui sont obligés de fumer.
D'accord.
C'est comme l'alcoolisme, en fait. C'est l'addiction à la substance du tabac.
En fait, pour l'anecdote, il y a un énorme... devant les juges, en ce moment, il y a un grand tribunal sur le sujet aux Pays-Bas. Pour le tabagisme, qu'on considère comme que ça donne une addiction et que les gens qui sont en train de produire ça...
Sont responsables.
Sont responsables. Mm-hmm. Et si les juges vont accorder la plainte des gens, ça va avoir un impact incroyable. Mais bon, peut-être
parce
pour
que c'est
une...
un collectif qui a porté plainte contre des firmes internationales,
tout à fait, ouais. Et fait, c'est une... Bon, peut-être pour une chronique une autre fois, mais c'est...
Non, mais parle-nous-en tout de suite. Hein.
Oui, non, mais c'est... Il y a une avocate assez connue qui est devenue vraiment la porte-parole de tous ces gens et qui dit que, surtout pour les jeunes de moins de 18 ans qui commencent à fumer,
d'accord,
qui n'arrivent pas à bien maîtriser encore leur corps, etc., mm-hmm, se font influencer, et dès qu'on a fumé quelques cigarettes, avec tout ce qui est addictif dedans, je ne me souviens plus le nombre, mais il y avait 21 ou un truc comme ça. Des
substances addictives, oui.
Voilà, et c'est, en fait, elle veut tout mettre sur les producteurs et si ça va être accordé, ça va avoir des impacts.
Et là, le procès est en cours
On ne sait pas, parce qu'il y avait le grand juge qui était enlevé du cas parce qu'il avait dit dans un entretien en off, il avait dit que oui, c'était toujours encore la volonté des gens. Mm-hmm. Et ça s'est venu vers l'avocate, elle a tout de suite dit « je ne veux plus ce juge ». Et bon, on a recommencé, bon, un peu comme avec Zwarte Piet, on a recommencé la discussion et on n'est pas encore là. Mais
on n'est pas encore sorti du truc. Et donc, oui, c'est vrai que si on considère que les responsables du tabagisme sont les firmes qui vendent les cigarettes, ça peut remettre beaucoup de choses en question, même sur d'autres produits.
Mais alors, je pense que c'est vrai ce que tu dis.
Ah, alors reprenons, dans le futur, on aura un vaccin contre le tabagisme. Alors, tu penses que c'est possible ? Qui pense que c'est possible aussi ?
Moi, j'espère.
Toi, tu l'espères ?
C'est possible.
C'est beau ce que tu dis. Et toi, allez, tu penses que c'est possible ou pas ?
Non, je pense que c'est pas possible.
Eh bien, c'est possible. Trois sociétés pharmaceutiques auraient commencé les essais cliniques d'un vaccin anti-tabac. En fait, l'idée, c'est de stimuler la production d'anticorps qui se lieraient dans le sang à la nicotine. Et ça empêcherait celle-ci de se rendre au cerveau, diminuant ainsi la dépendance. Voilà. Bien, écoutez, notre émission touche à sa fin. Merci à tous pour cette émission. Merci, Rosita, de nous expliquer les protests, comme on le dit si bien dans cette langue française que tu inventes tous les jours.
Voilà.
Merci, Ruben, de nous avoir rappelé que la Saint-Nicolas, c'est dans quelques jours. On pensera te faire un petit cadeau. Et on mangera du poisson.
Merci.
Et merci à Ali de rester l'optimiste de la bande. Merci à Radio Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci à Mafé qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est toujours là à m'appeler pour me dire « Casimir, il faut faire des postes ». Merci à Mathilde, merci à Charles et merci à Pierre-Alexandre, dit PA, dit pas. On se dit au revoir dans toutes les langues. 1, 2, 3.
Au revoir,
à la prochaine.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.